Bonjour à tous. Merci au comité organisateur. Merci surtout à mon collègue Francis Laure qui n'est pas là en ce moment pour entendre mes remerciements. C'est lui qui a pensé à moi pour la conférence aujourd'hui. Merci à Maître Cuisineau pour avoir fait un si bon travail de mon parcours professionnel. Bon, je pense que c'est un peu utile de savoir un petit peu quel est le parcours professionnel de quelqu'un pour comprendre un petit peu son questionnement. Sinon, ça a l'air d'une grande réponse de 15 minutes plaquée, puis on ne sait pas trop d'où elle sort. Bon, j'avais prévu vous parler de mon parcours, mais maintenant c'est fait. Alors, on m'a demandé aujourd'hui de vous parler un petit peu de mon projet de thèse. L'exposé qui suit se divise en trois parties. D'abord, dans la première partie, je vous propose une réflexion autour de la notion de responsabilité sociale, autour du concept de responsabilité central dans ma thèse. Un concept qui n'est évidemment pas étranger au droit, un concept que vous connaissez bien, un concept qui vous est familier, mais un concept qui est évidemment irréductible à sa conception juridique. Je vous parlerai aussi de ma méthodologie pour que vous compreniez bien qu'est-ce que je fais exactement dans mon doctorat, quelle est mon approche méthodologique, comment se distingue-t-elle des approches plus juridiques. Enfin, je vous donnerai à gros traits, bon, on n'a pas beaucoup de temps aujourd'hui, les principaux résultats d'une partie de mon doctorat dans laquelle j'étudie le discours des scientifiques. J'aimerais donc d'abord vous proposer une réflexion sur la notion de responsabilité sociale. Qu'est-ce que ça veut dire, responsabilité, en gros? Qu'est-ce qu'on entend par ce terme? Ça semble simple, on l'utilise tous les jours, mais dès qu'on pose la question, ça semble se complexifier. Une analyse de mon collègue Vincent Richard et de ma directrice de thèse Lynne Letourneau a été consacrée entièrement à ce terme difficile. Dans cette étude, Richard et Letourneau identifient une distinction importante. Une distinction qu'ils empruntent de Newberg, soit la distinction entre responsabilité rétrospective et la responsabilité prospective. Cette distinction met en effet en exergue deux formes de responsabilité. D'abord, la forme rétrospective, qui traite d'actes accomplis dans le passé. Cette forme rétrospective de responsabilité, est intimement liée à la notion de faute, de sanction, mais aussi d'imputabilité. Vous connaissez mieux que moi la force et les limites de ce terme en droit. En droit québécois, on parlera de responsabilité civile lorsqu'un agent doit répondre de certains actes ayant causé un dommage à une autre personne. Et donc, dit responsable, selon cette première forme, celui ou celle qui est à l'origine d'un acte X ou Y, des actes déjà accomplis, des actes dont l'agent est imputable et pour lesquels il devra répondre ici, devant la loi. Cette forme de responsabilité a donc une signification plus proprement juridique. Nous sommes tournés plutôt vers le second sens de responsabilité, la responsabilité prospective. En effet, la responsabilité prospective, elle, toujours selon Newberg, découle plutôt du rôle assumé par une partie dans un contexte particulier. Elle est donc plutôt définie par le rôle d'une personne ou d'un groupe de personnes. Cette responsabilité réfère à un ensemble de règles, des règles qui structurent et encadrent le comportement social d'un ou d'un groupe d'individus, des règles expliquant plus ou moins précisément comment cet agent ou ces agents doivent agir dans un contexte précis. Cette forme de responsabilité est parfois constituée de divers devoirs et obligations qui incombent à cette partie compte tenu du rôle social qu'elle occupe. Pour mon sujet de thèse, il s'agit donc de ce sens de la responsabilité prospective du chercheur. Notre questionnement sur la responsabilité sociale du chercheur est un questionnement sur le rôle du chercheur dans la société, un rôle défini notamment par certains devoirs. Donc, vous voyez un petit peu bien. La question logique qui suit est quels sont les devoirs et obligations du chercheur? Ici, donner une définition claire du rôle du chercheur et ainsi des devoirs et obligations liés à ce rôle est un obstacle important. En effet, bien qu'une professionnalisation croissante du métier de chercheur semble présentement à l'œuvre, notamment dans l'encadrement normatif de l'activité de recherche, le rôle de chercheur ne fait encore aujourd'hui l'objet d'aucun consensus officiel. Mon projet doctoral consiste donc à prendre cette question vaste et stimulante pour en explorer une petite partie. J'ai choisi deux voies d'exploration. La première voie empruntée dans mon exploration des devoirs et obligations du chercheur est l'étude des manifestations normatives de la responsabilité sociale du chercheur. La seconde est l'étude des... Bonjour Francis, je t'ai remercié au début, puis je te remercie encore là, parce que t'es là. Non, pas du tout. L'étude des représentations de la responsabilité sociale du chercheur, et cela à partir du discours du chercheur. Donc ça, c'est la deuxième partie. Bon, étant donné le temps qui m'est imparti aujourd'hui, je n'ai pas le temps de vous donner d'informations sur la méthodologie et les résultats relatifs à l'encadrement normatif du chercheur. Je me concentrerai donc sur l'étude des représentations de la responsabilité sociale du chercheur à travers le discours du chercheur. Cette partie est la partie centrale de mon doctorat. L'essentiel de la dernière année a d'ailleurs été consacré à la réalisation de cette partie et j'y suis toujours plongé en ce moment. Dans cette entreprise, je comptais identifier, et je compte toujours, dans le discours même du chercheur, les différents devoirs et obligations qui y sont promus et défendus, aller vérifier comment, dans le discours du chercheur, ce dernier comprend et se représente les liens qu'il entretient envers la société, comment il conçoit son propre rôle. Pour cela, j'ai effectué une analyse de contenu des écrits de certains scientifiques notoires. J'ai choisi 6 scientifiques. 6 scientifiques qui devaient, pour faire partie de mon corpus, avoir publié des essais destinés à un large public, des essais dans lesquels ces chercheurs exposaient leurs réflexions sur la science et le lien de la science avec la société. J'ai choisi 3 scientifiques qualifiés de classiques. Classiques parce que leurs découvertes, leurs réalisations et leurs réflexions sont historiquement devenues des œuvres maîtresses du genre. Donc, 3 discours classiques, mais aussi 3 discours reliés au débat sur les OGM, puisque mon questionnement s'inscrit aussi dans ce débat. Tous ces scientifiques classiques, comme OGM, tous ces scientifiques avaient donc comme trait commun d'avoir contribué au développement du savoir scientifique de façon importante, d'avoir vu le savoir produit se transformer en applications technologiques importantes, et 3, des applications technologiques qui ont suscité des craintes, sinon un questionnement au sein de la société. Ces scientifiques sont Albert Einstein, d'abord. Connaissez-vous Albert Einstein? Le discours tenu avant et après l'utilisation de la bombe. James D. Watson, co-découvreur de la structure en double hélice, la fameuse de l'ADN. Son discours avant et après la conférence d'Asilomar sur l'utilisation de l'ADN recombinant. Jacques Testard, le père scientifique d'Amandine, premier bébé éprouvette français. Son discours, donc, au fil des 20 dernières années sur le débat entourant la reproduction assistée. 3 scientifiques notoires, donc, mais aussi 3 scientifiques reliés aux OGM. Axel Kahn et Louis-Marie Houdbin, généticiens, biologistes, très impliqués dans le débat des OGM. Ils sont légèrement et avec beaucoup de nuances pro-OGM. Et le dernier, Gilles-Éric Séralini, généticien, biochimiste, extrêmement impliqué dans le débat des OGM. Il est, et avec les mêmes réserves que pour les 2 autres, lui, anti-OGM. 6 scientifiques notoires, donc, dont le discours a été rigoureusement et soigneusement étudié comme outil l'analyse de contenu. Pour ceux et celles qui sont moins familiers avec la technique, pour chacun des 6 scientifiques, j'ai choisi 3 essais écrits par ces scientifiques. Pour chaque ouvrage, je devais identifier les passages dans lesquels l'auteur affirmait plus ou moins directement une obligation qu'il ressentait ou non envers la société. Donc saisi des passages pertinents, donc saisi. Et ensuite, chaque passage devait être traité par des étapes de catégorisation. Donc lecture, saisie des passages, identification des devoirs et obligations sous-jacents, identification des thèmes, des sous-thèmes. Donc une tâche, soyons honnêtes, assez ennuyante, somme toute, mais où la matière centrale de mon doctorat a donc littéralement été extraite du discours de ces chercheurs. Déjà, certains éléments ressortent de cette analyse du discours, sans aller dans le détail. On peut observer que les devoirs et obligations du chercheur semblent se diviser en 2 grandes familles, Cette vision apparaît d'ailleurs dans le cadre normatif. Les chercheurs étudiés reconnaissent en effet principalement deux familles de devoirs et obligations qui leur incombent dans leur rôle de chercheur. Les devoirs et obligations envers l'homme, donc l'homme, la société, mais aussi des devoirs et obligations envers la science elle-même. D'abord, les devoirs et obligations envers l'homme et sa société. Les plus importants sont par exemple le devoir de bienfaisance et de non-malfaisance. Dans le discours, il s'agit de différentes variantes autour de l'idée de faire du bien avec le savoir produit, sinon minimalement de ne pas faire de mal. Le second est le devoir de respect de l'autonomie de la personne humaine, un devoir qui a inspiré plusieurs des chercheurs étudiés, certains plus que d'autres. Disons, par exemple, le discours d'Axel Kahn est un discours qui tourne essentiellement autour de ce devoir. Un devoir que l'on réduit parfois dans le cadre normatif à l'idée de concept de consentement éclairé. Le devoir de justice et d'équité, ensuite, les chercheurs étudiés défendaient ici, par exemple, l'idée de juste répartition des biens investis en recherche, de juste répartition des efforts de recherche, de juste répartition des produits de la recherche et des savoirs scientifiques produits. Le devoir d'éducation, par exemple, de publication, de vulgarisation font partie de ce devoir. Les devoirs et obligations envers l'homme et sa société, donc. Mais aussi des devoirs et obligations, avons-nous dit, envers la science elle-même, la connaissance. Des devoirs et obligations envers le savoir, envers la vie du savoir. Il y a d'abord le devoir de promotion de liberté intellectuelle. Écoutez, dans le discours des chercheurs, ces derniers sont amoureux fous de cette liberté. On use de la métaphore et de l'hyperbole, discours poétique, mystique parfois. On parle de cette liberté intellectuelle qu'il s'agissait de leur propre chair. Avec une passion du même ordre, les chercheurs défendent aussi le second devoir, le devoir d'accroître le savoir. Et ici, je ne parle pas du devoir d'accroître le savoir pour éventuellement transformer ce savoir en espèce de contribution au bien commun, contribution par exemple à l'amélioration de la santé. Non, ici, il s'agirait d'une espèce de devoir de bienveillance déguisé. Je parle ici d'un pur et drôle et mystérieux devoir de faire croître le savoir. Le savoir pour le savoir, pour la beauté des nombres, dit Einstein. Ici, dans le discours du chercheur, ce dernier donne en effet au savoir une sorte de valeur en soi, une valeur qui ne dépend de rien d'autre, un devoir autonome, auto-justifié. Dans le discours du chercheur, deux premiers devoirs, donc le savoir semble désiré pour lui-même, il doit croître, sa croissance doit être libre de toute entrave. À ces deux devoirs s'en ajoutent d'autres, des devoirs que j'ai regroupés sous le troisième titre de devoirs d'intégrité et de collégialité. Sous ce titre, j'ai regroupé différents devoirs et obligations qui encadrent d'une part la relation entre les chercheurs, mais aussi la relation des chercheurs envers la vérité. Concernant les relations entre les chercheurs, on pense notamment à des devoirs comme le devoir de respect des droits d'auteur et respect de propriété intellectuelle, mais aussi le devoir de partage du savoir, des données, le devoir de publication dans les revues de pairs, par exemple, la formation des disciples, des futurs collègues, des devoirs donc toujours tournés envers les collègues pour favoriser cette sorte de collégialité. À ces devoirs envers les collègues s'ajoutent des devoirs envers la vérité. On pense ici au devoir d'honnêteté du chercheur, par exemple l'interdiction de manipulation, de falsification, de fabrication, de résultats. Le chercheur étant ici principalement défini comme un chercheur de vérité, et on comprend que toute forme de mensonge soit plus que curieux pour un chercheur de vérité. Bon. Les devoirs et obligations envers le savoir, donc, des devoirs que j'ai regroupés sous les trois titres affichés. Des devoirs qui servent essentiellement à la vie du savoir, sa conception, sa croissance, sa reproduction, la préservation de son intégrité. Deux grandes familles de devoirs et obligations, donc, émergent du discours du chercheur, si on consulte le chercheur à l'intérieur même de son discours, du moins si on consulte mes chercheurs. Bon, je ne peux pas parler pour tous les chercheurs, mais si on regarde mes chercheurs et leur discours, à grands traits, on pourrait dire que le chercheur se reconnaît ses devoirs. Deux forces normatives, donc, au sein du discours du chercheur. L'une d'elles invite le chercheur à s'extraire de la société, à se dédier à la vie du savoir, à s'isoler dans la caricaturale tour d'ivoire. L'autre projette, au contraire, ce dernier dans la société et les hommes, l'incitant à s'assurer que le savoir produit contribue d'une quelconque façon au bien commun, au respect et à l'émancipation de l'homme et de sa société. Deux forces normatives, donc, au sein desquelles, et c'est plus qu'évident dans le discours de mes chercheurs, au sein desquelles le chercheur tente de trouver et de retrouver un difficile point d'équilibre ou juste milieu. Voilà, j'espère que ce saut philosophico-sociologique vous aura plu. Merci.